7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Troisième et dernier volet de notre série d'émissions dans la capitale mauritanienne, Nouakchott. Des émissions d'ailleurs que vous pouvez réécouter en podcast. Après un débat sur les droits des femmes et puis sur la réforme de l'éducation, aujourd'hui, une rencontre avec une jeune entrepreneuse passée de l'ombre à la lumière. Bonjour Kadio Niang.
Bonjour Anne-Maëlle.
Kadio Niang, vous êtes une jeune ingénieure de 33 ans. Vous avez fondé Solar Ecobat, une start-up spécialisée notamment dans la fabrication de lampes solaires. Vous avez réussi dans un pays où la réussite économique des femmes n'est pas si courante. Elles sont deux fois moins nombreuses que les hommes dans les universités, par exemple. Vous avez choisi en plus un secteur technique dominé par les hommes, l'ingénierie, les énergies renouvelables. Et vous allez nous raconter votre parcours, ce qui vous a permis de vous forger des convictions profondes sur l'avenir de votre pays, comment vous voyez aussi le mix énergétique, l'avenir des start-up et des femmes dirigeantes en Mauritanie. Et puis en deuxième partie d'émission, reportage dans le nord de Nouakchott, dans un quartier défavorisé, au centre Safia, qui accueille et redonne espoir à des jeunes femmes qui ont arrêté l'école très tôt et qui habitent dans ces quartiers sans aucune perspective d'emploi.
RFI à Nouakchott, 103.3 FM.
Kadio Niang, j'aimerais qu'on commence par votre enfance, par votre parcours personnel dans la commune de Tekan.
C'est la commune de Tekan, oui.
Au sud-ouest de la Mauritanie,
oui.
À l'est de Rosso.
Oui.
Comment vous avez grandi?
Oui, moi je suis née dans un petit village qui s'appelle Niangamboul, dans la commune de Tekan. J'ai fait mon école primaire à Tekan même, parce que c'est là où est la famille maternelle de ma maman. Donc j'étais avec ma grand-mère. C'est ce que j'ai passé à l'école primaire là-bas, jusqu'à obtenir l'entrée en sixième. Et je suis arrivée à Nouakchott.
Ouais, obtenir l'entrée en sixième, il y a un examen pour entrer
oui.
en sixième.
Voilà.
Et arrivée à l'entrée en sixième, vous arrivez à Nouakchott.
À Nouakchott, oui.
Pourquoi?
Pour continuer mes études.
Oui.
Le collège et le lycée.
Mais c'était loin du village.
Oui, c'était loin du village, mais j'étais avec ma grande sœur. Mes parents étaient toujours au village, ils ont toujours habité au village. Donc, nous, on était là, en ville, j'étais avec ma grande sœur.
On vous a renvoyé à Nouakchott, à plusieurs heures de route
oui.
du village, pour vous donner le maximum de chance.
D'éducation, oui. D'éducation et de réussir.
Ouais. Et vos parents, que faisaient-ils au village?
Papa était agriculteur et maman était femme au foyer.
À quoi ressemblait la vie au village, dans la commune de Tekan, en termes d'électricité, puisque c'est devenu votre métier?
Oui. Quand j'étais encore élève, il n'y avait pas d'électricité. On révisait nos leçons à l'aide des bougies ou des lampes à pétrole. Donc, c'était des produits qui sont nocifs à la santé et à l'environnement parce que ça dégage des gaz toxiques. Et maintenant, actuellement, ça commence un petit peu à changer. Et donc, ils ont commencé à utiliser les énergies renouvelables, notamment le solaire.
Mais vous nous dites ça comme si c'était très facile à comprendre, à imaginer vivre sans électricité. Mais c'est pas simple.
Non, c'est pas du tout simple. On arrive à s'adapter. Même si on n'a pas d'électricité, aller chez le voisin pour avoir la lumière afin de réviser ensemble.
Et pour le téléphone portable?
Et pour le téléphone portable. Recharger le téléphone. Mais actuellement, comme on a du solaire, c'est devenu plus simple.
Alors les études à Nouakchott, le collège, le lycée, vous étiez très bonne élève?
Oui. Pas mal.
Qu'est-ce que ça représentait à l'époque, les études à Nouakchott?
Ça représentait beaucoup, parce que j'étais une élève où, par exemple, je n'ai jamais pensé à ne pas aller en cours. Donc voilà, étudier et réussir, c'était la priorité.
Pourquoi, dans le fond? Qu'est-ce qui vous animait?
Parce que c'est mon père nous a inculqué ça. Par exemple, lui, il n'a jamais donné ses filles en mariage avant de finir ses études. Parce que lui, il voulait qu'on soit autonome, de ne pas dépendre à quelqu'un, par exemple.
Il y avait combien de frères et sœurs dans la fratrie?
On est à peu près 15 frères et sœurs. Deux ou trois qui n'ont pas accès aux études, c'est tout.
Vous êtes arrivée en France juste après le bac,
juste après
à Nouakchott.
Oui.
Le bac qui est si difficile à obtenir.
Mm-hmm. Oui, j'ai obtenu le bac. Je suis partie en France. Parce que j'avais obtenu une pré-inscription. Donc, je suis arrivée là-bas. J'avais mes deux frères qui m'avaient précédée là-bas, mes deux grands frères. Du coup, ils travaillaient et moi, j'allais à l'école. Donc, ça m'a permis aussi d'être autonome parce que je n'ai pas eu le problème d'aller à avoir un petit boulot, en même temps penser au petit boulot et travailler pour, par exemple, payer ses transports, ça ne m'est pas arrivé.
Comment vous avez eu un visa étudiant ? C'est rare d'obtenir un visa étudiant juste après le bac pour le premier cycle universitaire en France ?
Franchement, moi, l'obtention du visa, ça n'a pas été difficile. J'avais des garanties de mes frères et sœurs. Après, j'ai juste déposé aujourd'hui, on m'avait dit que c'était bon. Je l'ai fait le lendemain, donc du coup, je n'ai pas eu de difficulté à avoir le visa. Donc j'ai eu le bac qui s'appelle TMGM, qui est Technique Mathématique Génie Mécanique. Donc j'ai poursuivi mes études en DIT Génie Industriel et Maintenance en France. Puis j'ai fait une licence en maintenance des systèmes pyrotechniques. Donc après, j'étais plus technicienne et maintenancienne. Après, je me suis orientée en énergie énergétique en intégrant l'école ENSIAT.
Ouais, qui est une école d'ingénieurs.
D'ingénieurs,
et ouais. Vous êtes devenu ingénieur diplômé. Oui. Le DUT en génie industriel et maintenance qu'a dit Onyang, il y avait combien de filles en France dans ce DUT ? C'était dans quelle ville ?
C'était à Paris. Le DUT, on était 17. En termes de filles, on était 3.
Trois filles ?
Trois filles, oui.
Donc vous arriviez d'un petit village de Mauritanie et vous vous retrouvez en France, à Paris, dans une formation où il n'y a que des garçons.
Ça ne m'a pas surpris parce qu'au lycée aussi, on était trois filles.
À Nouakchott ?
À Nouakchott, parce que c'est un lycée technique. Et pour y entrer, il faut un concours. Donc tu rentres en concours. Après, voilà, il y avait trois filles. On était 21, il y avait trois filles.
Ouais. Donc finalement,
donc, c'est une filière
vous étiez,
technique.
Vous étiez habituée finalement ?
Oui. Parce que moi, j'ai toujours aimé les filières un peu techniques. Donc, du coup,
mais d'où ça vient, ce goût pour les matières très techniques ?
Peut-être c'est en termes d'éducation. On n'a pas trop eu de différence entre les filles et les garçons.
Mais ça venait du papa ?
Oui, oui, c'est exactement ça. Pour ça, il n'a pas fait l'école, lui. Non. Dans notre village natal, c'était presque notre famille qui était les premiers à aller à l'école. Notre village natal et le village de ma mère, c'est 27 kilomètres. Pourtant, on était petites, nous tous, nous a amenés à Técane pour faire nos études.
Voilà. Alors, vous nous disiez, aujourd'hui, le village où vous avez grandi, il y a des panneaux solaires, il y a l'électricité qui commence à arriver grâce à l'énergie renouvelable. Je voudrais que vous nous disiez où en est la Mauritanie, notamment par rapport à d'autres pays de la sous-région, en termes d'accès à l'électricité.
Actuellement, la Mauritanie n'est pas mal en termes d'accès à l'électricité, surtout dans le domaine d'énergie solaire. Il y a quelques centrales qui ont été faites et le gouvernement a mis en place, par exemple, un objectif d'électrification rurale à partir des mini-grids, la construction des mini-grids pour électrifier les zones rurales. Les mini-grids, c'est les petites centrales solaires, donc par exemple, qui peuvent électrifier, on va dire, 200 familles, 300 familles. Donc, ce n'est pas un réseau national Sonelec parce que la Mauritanie est vaste. On ne peut pas accéder à tous les petits recoins de la Mauritanie. Mmh. C'est très compliqué et le taux d'accès à l'électricité, on n'a que 85% de ces populations n'ont pas accès à l'électricité en milieu rural.
En milieu rural,
voilà.
Ouais. Alors, bien sûr, on a un quart de la population qui habite à Nouakchott, un peu plus de la moitié de la population qui habite dans les villes. Est-ce que pour autant, dans les villes, si on regarde les villes étendues, les banlieues, les zones périphériques, il y a maintenant un taux d'accès à l'électricité qui est correct ?
Sous la périphérique, il y a le taux d'accès qui commence à être correct. Ils ont, par exemple, ils ont même installé des centrales, par exemple, au Nouakchott Sud et Nouakchott Nord, qui s'appellent centrales Cheikh Jaïd, pour électrifier la ville de Nouakchott, pour que la ville de Nouakchott soit autonome en électricité. Il y a des délestages, surtout en période de forte chaleur, par exemple actuellement, mais ça commence à s'améliorer.
Est-ce que vous savez pourquoi la Mauritanie est globalement un peu en retard dans son réseau d'électricité, dans son accès à l'électricité par rapport au Burkina Faso, par rapport au Niger, par rapport au Mali, au Tchad ?
Je ne sais pas d'où vient ce retard. Peut-être c'est une question de moyens ou de manque d'infrastructures, parce que la Mauritanie, il y a beaucoup quand même. C'est un pays très vaste et que les infrastructures manquent. Et aussi, voilà, je pense qu'il manque de ressources. Mais je pense que le gouvernement a mis en place un plan d'adaptation pour d'ici 2030 d'atteindre au moins 13 gigawatts. Surtout en termes d'énergie propre. Ça pourrait quand même électrifier peut-être la moitié de la population à peu près.
L'avenir de l'électrification, de l'accès à l'électricité aujourd'hui en Mauritanie, ça passera par le solaire ?
En premier, on a le solaire, puis l'éolien, après
l'éolien, donc le vent.
Le vent, oui. Et aussi les centrales hydroélectriques. Donc, voilà,
l'eau.
Et l'eau. où on a l'eau et les centrales thermiques en dernier.
Le solaire ne peut pas stocker l'électricité.
Oui, le solaire ne stocke pas, on peut l'utiliser tout de suite. On peut aussi créer le stockage, donc en utilisant les batteries. Donc on peut stocker, par exemple, si c'est un mini-grid du village, là-bas, il n'y a pas de réseau. Parce qu'en Nouakchott, on peut injecter sur le réseau. Par exemple, dans les petits villages, on associe avec des systèmes de stockage, donc pour pouvoir alimenter la nuit.
Comment ont progressé les mini-grids, sachant que l'électricité classique demande des très gros investissements d'infrastructures qui passent par des décisions gouvernementales, etc. Est-ce que les mini-grids, donc ces mini-centrales pour un village, pour quelques habitations, ça a permis de contourner des décisions politiques qui étaient plus longues à venir ?
Oui, ça a commencé parce que là, actuellement, il y a des mini-grids qui sont en cours de réalisation parce que ça demande moins de protocoles pour pouvoir décider et tout. C'est moins de paperasse, on va dire. Je pense que c'est une solution qui permettra facilement de rectifier la Mauritanie.
Quand votre famille, quand vos parents voient vos réalisations, notamment sur la construction durable, mais aussi sur l'électricité solaire, quelle est leur réaction ?
Ils sont fiers, c'est parce que déjà dans le solaire en Mauritanie, je pense dans le domaine, on n'est pas nombreux comme femmes. Parce que même dans les appels d'offres, si je parle, je pense, la seule à diriger une entreprise dans ce domaine-là. Mais je ne vois pas d'autres femmes exactement qui font la même chose.
Ouais. On va en discuter, justement. Mmh. Vous allez nous raconter comment vous faites pour diriger une équipe, pour vous positionner, comment vous vous sentez considérée. Vous restez avec nous, Kadio Niang. Vous avez fondé Solar Ecobat et on va aborder votre aventure entrepreneuriale qui vous a couronné d'ailleurs de nombreux prix. Ça sera juste après votre choix musical.
Baba Mal, African Woman.
Of my land, of the world.
7 milliards de voisins, nous parlons entrepreneuriat aujourd'hui avec le parcours d'une jeune Mauritanienne. Kadio Niang est notre invitée aujourd'hui pour cette émission enregistrée à Nouakchott. À part le manque de lumière, rien ne vous prédestinait vraiment à faire des choix aussi singuliers. Kadio Niang, étudiante mauritanienne en France, ingénieure diplômée dans un secteur très masculin d'ailleurs, y compris en France. Hein. Vous avez quitté la France ensuite pour rentrer en Mauritanie. Une fois que vous avez eu votre diplôme d'ingénieur, vous avez travaillé un petit peu d'abord en France.
J'ai juste fait un stage fin d'études à Altéria, donc on civil les chantiers et aussi des bâtiments neufs. Faire des DPE, le diagnostic des performances énergétiques. Donc, c'était plutôt dans le domaine efficacité énergétique. Donc, tout ce qui est économie d'énergie, utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments pour, par exemple, réduire la consommation et aussi émission de gaz à effet de serre dans les constructions.
Comment, dans ces stages, avec des technologies assez différentes, des besoins très différents en France, hein, comment vous arriviez à vous projeter sur ce qui vous serait utile pour votre retour, puisque vous saviez que vous alliez rentrer en Mauritanie?
Oui, parce que moi, j'avais une idée claire que ce que je voulais faire. Donc, j'ai choisi aussi de faire le stage dans ce domaine-là. C'était l'efficacité énergétique. J'étais chargée d'études, assistante chargée d'études. Donc, je m'occupais de tout ce qui est choix des matériaux de construction. Donc, que ce soit isolation, choix du chauffage, que ce soit chauffage à base de poêle à bois ou du solaire thermique pour faire le chauffage collectif dans les HLM. Donc, c'était quelque chose qui était bénéfique et qui m'aidait aussi à s'améliorer et de profiler aussi mon projet de retour en Mauritanie.
Le projet de retour, vous saviez que vous vouliez rentrer pour créer une entreprise en Mauritanie?
Oui, je savais. J'ai toujours voulu être autonome. Je n'ai jamais voulu être peut-être salarié. Donc du coup, depuis qu'avant même j'ai fini, j'avais déjà écrit l'idée de création de l'entreprise. Je sais que c'est la galère, c'est pas facile, on n'a pas de salaire au début, on n'a rien du tout, mais voilà, on s'accroche.
Mais comment vous avez fait? Comment c'est possible? Est-ce que votre famille vous a aidé? Votre famille n'avait pas beaucoup d'argent, un papa agriculteur, dans une commune éloignée de la capitale?
Oui, ma famille, ils ont... papa agriculteur, mais ils ne sont pas très mal aussi, ça va. Mais ils m'ont soutenu. Mais en même temps...
Ils vous ont prêté de l'argent?
Non, ils n'avaient pas l'argent à prêter. Mais j'ai plutôt participé à des concours. Par exemple, mon premier concours, c'était en 2017. J'ai postulé avant de rentrer. Et c'était le marathon de l'entrepreneuriat en Mauritanie, organisé par Hadina Rimtik. J'ai obtenu le prix de l'entrepreneur féminin. Donc, c'était 3000 euros. C'est ce qui m'a prié de créer l'entreprise. Donc, de faire tous les éléments administratifs, mettre l'entreprise en place, voilà.
Mais comment vous avez fait pour gagner ce concours? Vous aviez appris durant vos études à candidater pour des concours, à ficeler des business plans?
Pendant mon école d'ingénieur, on a quand même appris à comment manager l'équipe, comment faire la gestion de projets, comment créer des projets et comment créer une entreprise. Donc, je l'ai appris à l'école. Et également, donc, j'ai postulé à distance. J'avais une équipe qui était là, qui me représentait, en attendant que je vienne. Donc,
attendant de rentrer en
Mauritanie. Mauritanie pour participer au final, moi-même. Voilà. Et c'était une expérience très, très, très bien, très réussie.
Alors, avec ces 3 000 euros, ça suffit pour démarrer?
Ça suffit, en tout cas, pour faire tout ce qui est administratif, paperasse, et démarrer et commencer à faire un petit peu de pub. C'est pas facile, mais quand même, ça nous a permis de démarrer.
Et ensuite?
Ensuite, en 2019, j'ai participé à EDF Pulse Africa. Donc, c'était organisé par EDF, Fondation d'EDF en France.
Alors, EDF, c'est le premier fournisseur d'électricité en France.
Oui, en France.
Et, une entreprise essentiellement publique, d'ailleurs.
Voilà, j'étais la seule Mauritanienne à être sélectionnée et j'étais finaliste. Mais je n'ai pas gagné de prix. Je suis revenue, mais ça m'a permis aussi d'être visible. Donc, il y avait l'avantage, c'était on a eu la visibilité parce qu'il y avait derrière des reportages, des interviews. Donc, du coup, ça nous a permis de nous faire connaître et d'avoir aussi des commandes. Donc, en 2019, on a eu notre première commande. C'était janvier 2019, notre première commande de réalisation de centrales solaires d'irrigation.
Donc votre stratégie de communication, c'était d'être une machine à concours?
Ah oui, pour une machine à concours, pour communication en même temps, mais pour aussi avoir des fonds. Donc, après, j'ai fait en 2020, on a participé au Cosmos Innovation Challenge. Donc, le prix est financé par Cosmos Énergie. C'est une entreprise pétrolière qui exploite le gaz et le pétrole ici en Mauritanie. Donc, c'est eux qui ont organisé ce concours afin d'aider des jeunes entrepreneurs à avoir des fonds pour démarrer. Donc, nous, on a obtenu le troisième prix de Cosmos Energy Challenge. C'était 15 000 $. Donc, ça nous a permis de prendre des locaux, avoir du stock, fabriquer quelques lampes, en même temps aussi voilà, faire une campagne publicitaire dans le milieu rural. Imprimer tout ce qui est flyers, distribution de flyers et tout, et aussi recruter deux salariés.
Et pendant ce temps, les banques, est-ce qu'elles ont commencé à répondre positivement à vos demandes de prêts?
Oh, en Mauritanie, le système bancaire, c'est trop compliqué. C'est pour ça qu'on n'avait pas toujours à avoir du crédit, parce qu'il faudrait avoir des garanties. Parce que voilà, pour eux, les projets, il faut avoir des gains. Soit on a du titre foncier à donner, ou sinon, ce n'est pas facile à avoir du crédit quand on est jeune entrepreneur si on n'a pas des garanties. Mais en 2021, j'ai participé à un concours organisé par BMCI. Donc, ça s'appelle BMCI Challenge. C'est la première banque mauritanienne, la BMCI. Donc, l'objectif, c'était d'avoir un financement à taux zéro. Ou participation dans la capitale de l'entreprise. Donc là, on a obtenu le deuxième prix, c'était très bien. Et là, on est toujours en cours de collaboration avec la BMCI. Donc c'est une banque qui nous accompagne actuellement pour la réalisation de nos projets.
Solar Ecobat, qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Solar Ecobat fournit des kits solaires autonomes pour électrification, l'adduction à eau potable et irrigation solaire. Nous avons des bureaux à Nouakchott, mais nous intervenons principalement dans le milieu rural. Donc nos kits solaires permettent de faciliter l'accès à l'irrigation dans les zones rurales. Surtout, actuellement, on a les pompes classiques qui consomment beaucoup d'énergie en termes de gasoil. Et maintenant, avec le flambé du prix, c'est très cher et ça pollue par rapport à l'environnement.
Donc, là, vous parlez des pompes pour...
Les motopompes, par exemple, les pompes pour les puits, en même temps les pompes pour l'irrigation, pour faire l'agriculture. Donc du coup, soit de l'agriculture pour la rizicole ou maraîchage. Donc on a déjà installé pour riziculture des stations de pompes qui font irriguer 150 hectares actuellement.
Et donc aussi, ça c'est dans la région de
Rousseau. La région de Rousseau, Tarza.
Où il y a le riz.
Où il y a le riz principalement. Et aussi des maraîchages. Et également on installe aussi dans des puits pour faciliter l'accès à l'eau pour les femmes, et aussi ça leur diminue le forfait d'aller chercher de l'eau. Elles auront le temps de pouvoir peut-être créer d'autres activités, générer des revenus et avoir du temps pour elles.
Qu'est-ce que ça change pour les agriculteurs d'avoir des systèmes d'irrigation solaire en termes de coûts?
En termes de coûts, ça change beaucoup parce que par exemple à Tekan, ils ont la centrale qu'on a installée. Par exemple, ils utilisaient par jour 40 litres de gasoil pour irrigation, et maintenant, comme ils ont la centrale, au lieu d'utiliser 40, ils utilisent 15, 20 litres, parce que ça leur a fait économiser de l'argent.
Et maintenant, il faut quand même continuer à utiliser du gasoil.
Ils utilisent le gasoil parce qu'ils veulent irriguer la nuit, comme il n'y a pas de stockage.
Ah oui, parce que irriguer la nuit, c'est mieux, il y a moins d'évaporation de l'eau sur les cultures aussi, non?
Oui, mais ce n'est pas que ça, parce qu'ils veulent, comme c'est un champ très vaste qui fait 130 hectares, c'est pour le tour d'eau, pour que tout le monde accède à l'eau, qu'il n'y ait pas de retard de culture. Parce que par exemple, si lui, il irrigue le premier, il ne faut pas que le dernier va irriguer le 30 du mois.
À qui appartiennent ces terres?
Les terres appartiennent aux habitants autochtones là-bas, oui.
Vous travaillez aussi à rendre la vie quotidienne des femmes moins difficile. Vous parliez des corvées d'eau. Il y a aussi l'accès à l'électricité, à la lumière aussi dans ces maisons, dans ces villages. Comment ça se passe? Est-ce que les maisons individuelles, par exemple, peuvent louer un kit solaire qu'elles mettent sur le toit de la maison et au fil des années ou des mois où elles payent une forme de location, elles deviennent propriétaires de leurs panneaux solaires, comme le font pas mal d'entreprises? Est-ce que vous êtes dans ce modèle économique?
C'est une idée que je veux développer, parce que moi, par exemple, on a l'idée, c'est pour aider surtout la population rurale à pouvoir accéder à l'électricité. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc, du coup, on veut avoir des partenaires qui pourront nous aider à pouvoir donner des kits solaires, installer des kits, et qu'eux, ils payeront peut-être pas mois ou deux mois en attendant, et après, ils seront propriétaires de leur kit. Mais à côté, on a développé des mini-kits solaires, que ne sont pas chers. C'est un mini-kit où il y a 3 ampoules, on va dire, et une prise de recharge téléphone. Et voilà, et comme ça, ils peuvent avoir de lumière, recharger le téléphone, et ce n'est pas cher.
Et ça, ça coûte combien, par exemple, pour une personne qui est agriculteur ?
Agriculteur, on va dire, ça coûte vers 30 000 ougriers, un peu moins de 100 euros.
Et ça, il y a suffisamment de pouvoir d'achat pour équiper ces villages reculés ?
Comme le besoin en Mauritanie ne cesse d'augmenter, et comme de plus en plus, il y a quand même des gens qui travaillent, même si dans les zones rurales, les moyens sont limités, mais si on les aide à, par exemple, à avoir un autre moyen de paiement différent, ils peuvent quand même y arriver. Parce que même, par exemple, j'ai des demandes au niveau d'irrigation, pas coopérative, mais plutôt des individuels. Ils veulent installer eux-mêmes leur pompe, mais ils me demandent est-ce qu'ils peuvent, par exemple, payer par saison. Par exemple, on a 2 saisons de culture, par exemple, 20%. Quand je récolte, après, je paye d'eux. Voilà,
j'essaie quand même. En fait, vous adaptez votre système de facturation pour que ça ne soit pas trop lourd pour les agriculteurs,
voilà,
c'est ça, en fait.
Voilà,
hein,
ouais. Voilà.
Quand vous arrivez dans la région de Rosso, bon certes, vous êtes connue, mais quelle est la réaction ? Une femme à la tête d'une start-up, 7 personnes maintenant dans l'équipe à peu
oui,
près, non ?
Oui,
c'est ça.
Oui, 7 personnes.
Comment vous êtes perçue ?
À Rosso, bon, c'est vrai que c'est un peu étonnant pour eux, mais c'est comme si les gens sont fiers. C'est rare de voir une femme qui est dans cette... domaine qui manage. La dernière fois, il y a un qui m'a dit « Oh, on a quand même une femme qui manage des hommes ». J'ai dit « Oui ». Parce que c'est vrai que l'équipe, on a des hommes. Du coup, c'est quand même c'est bien perçu. C'est pas, en tout cas, en zone rurale, il n'y a pas encore de trop de contraintes dans ce domaine.
La Mauritanie est un pays qui manque quand même beaucoup de compétences techniques. Vous êtes bien placé pour le savoir. Peut-être vous avez même parfois des difficultés pour recruter parce que le pays a beaucoup misé sur ses matières premières. Est-ce que les femmes pourraient, si elles étaient mieux formées, pourraient permettre à un moment donné de rattraper ce retard sur les compétences techniques ? Est-ce que vous y croyez, vous ?
Oui, j'y crois bien, parce que moi, je crois bien à la formation. Parce que je pense que si on change le système de formation professionnelle, on adapte les formations au marché du travail, ça pourrait solutionner le problème. Par exemple, même nous, avant de recruter, par exemple, on prend des stagiaires, on les forme. Parce qu'il y en a quand même qui... Ils ont juste des bases, il faut les former pour qu'ils puissent faire bien le travail.
Mmh. Est-ce que vous aimez former des femmes en particulier ?
Oui. J'ai déjà formé des femmes, mais elles avaient même plus que 40 ans. Et c'est à 48 km de Rosso. C'était une coopérative féminine. On les formait à pouvoir comment installer leur panneau solaire et qui, quand il y a une panne, comment ils peuvent le réparer toutes seules, sans autant qu'on vient les voir.
Est-ce que cette nécessité, finalement, fait qu'elles s'intéressent au sujet, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'il y a cette idée reçue que les femmes s'intéressent peu à la technique ?
Si, elles s'intéressent bien, il faut juste les expliquer comment ça marche. En plus, les femmes, si elles s'intéressent, elles sont plus impliquées.
Quand vous regardez votre parcours, Kadio Niang, pourquoi finalement vous avez décidé de rentrer ?
Moi, j'ai décidé de rentrer, c'était parce que pour moi, je dois participer au moins au développement de mon pays, on va dire. J'ai des compétences, je voudrais les appliquer là où je suis grandi. Je sais que là où je viens, il n'y avait pas d'électricité et qu'en Mauritanie, 85% n'ont pas accès. Donc, il y a beaucoup d'affaires. Le marché est vaste et que l'accès, la demande est là. Donc, il faut que tout le monde y participe, que le pays avance, exactement. Sinon...
On dit souvent qu'en Mauritanie, tout est politique. Alors, comment une jeune chef d'entreprise, dans un monde d'hommes, qui vient de fonder une start-up, se tient à l'écart ou pas de la politique ?
Bon, moi, personnellement, je ne suis pas politicienne. Je ne suis pas politicienne du tout. J'essaie quand même d'être indépendante pour l'instant de la politique, pour aller de l'avant toute seule.
Et qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une communauté et être mauritanienne en même temps ?
Communauté, en tout cas, je suis mauritanienne et je suis Paul. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez communauté. Mais voilà, bon, et je suis de Traza. Au moins, au Traza, l'avantage, c'est qu'on a plus de mélange. Et les gens se comprennent beaucoup mieux que par rapport aux autres régions. Parce que là-bas, on a les mélanges afin des Maures, des Olof, des Peuls.
Ouais, c'est le sud de la Mauritanie.
Le sud de Mauritanie. Il y a plus de mélange que. Donc, on n'a pas.
Qui est beaucoup plus multilingue, ouais, multiculturel.
Multilingue, multiculturel. Et ils sont plus. On est quand même ouvert de l'esprit.
Mais vous qui avez étudié en France pendant plusieurs années, est-ce que parfois vous ressentez le besoin de fréquenter à Nouakchott des jeunes qui ont vécu aussi en Europe, qui sont des biculturels comme vous, des repates ?
Oui, pour échanger, pour échanger de l'expérience et en même temps échanger d'idées et pourquoi eux aussi ils ont choisi de rentrer et tout ça et quels sont leurs projets et même faire des projets de développement. Par exemple, actuellement on a un projet avec un Mauritanien, mais par contre lui il vit à Luxembourg, donc on a un projet de formation pour des jeunes. Dans le domaine d'entrepreneuriat et aussi tout ce qui est environnemental. La formation en énergie solaire. Donc, c'est un centre de formation qui est en cours et ça permettra aussi d'avoir du microcrédit en milieu rural pour les femmes agricultrices qui veulent avoir, par exemple, une motopompe solaire, de pouvoir prendre le motopompe et qu'on l'installe et pouvoir payer en différentes mensualités, on va dire.
Ça veut dire que vous avez déjà une vision très intégrée, à la fois le financement, la formation à l'entrepreneuriat, les formations techniques. Si tout ça ne s'accroche pas, il n'y a pas de nouvelles entreprises possibles dans ce domaine.
Non, il n'y a pas de nouvelles et aussi ça n'avance pas trop parce que ça va stagner. Parce qu'à chaque fois, il faut, par exemple, renouveler la formation. Les compétences, ça s'améliore. Avec le temps et tout, avec des nouvelles technologies qui avancent, il faudra quand même peut-être avoir une vision plus large.
Où vous vous voyez dans 10 ans, Kadio Niang ?
Ah oui, dans 10 ans, moi, en tout cas, on souhaite être quand même parmi les leaders dans le domaine d'énergie solaire en Mauritanie et aussi dans la sous-région, pourquoi pas.
Et familialement, je ne vous ai pas posé la question.
Familialement, je suis une femme mariée, et pas d'enfant encore.
Et dans 10 ans, vous vous voyez tenir un rôle aussi, au-delà de l'entreprise elle-même, dans la communauté, un rôle plus politique, plus citoyen ?
Bon, je suis plus dans l'associatif et social. Politique, peut-être plus tard, je ne sais pas. Je n'ai pas encore. Pour l'instant, je ne suis pas trop politique. Je suis plus dans. En tout cas, faire sensibiliser, faire évoluer les consciences dans l'autonomisation.
Plus tard peut-être, hein, plus vous tard, avez dit. Merci Kadio Niang, fondatrice de la start-up Solar Ecobat. Merci d'être venue
merci,
chez 7 milliards de voisins, à Nouakchott, de nous avoir accueillis aussi.
Et merci de m'avoir invitée.
Dans quelques instants, reportage à Nouakchott, au centre Safia, qui accueille près de 1400 jeunes femmes chaque année pour qu'elles se forgent un destin et accèdent à l'emploi. Ça sera juste après MC Malé et Tifa Diao. Naoligou. Balayalta kalai saha mine jom sudam omo fijanami omo jalanami kalko welo mo wadanami nyanda fof ko sorti plage jam resto bibam ne janga oy ko college oy ko primaire vacances non ko foute jura ya de bandirabe to halde gonga yimbe fone manta mo ne bi ko tebbo mojo kala to wawi wonde fof ko fijirde jalede por fetu sikini ko de botey do pew do gandi do hore mum yum e bi janando fo rendi fote mum wallahi ka debbo dimo tandi do yaware to halde gonga melam fof mi yi kay itiligal le baba ko hano ari suri mi dande mi reni mi besmu mada da hufi min goya wallahi ne welno den desmi debbo goddo gaddumi musibaji puddi hareji di gassa nyande fof ko ngare cernde rewbe kari nana mbarandira dow bolle puyde bibam fo charndiri sabu musibaji der kallo dam do ngurdam kaybe andano hakkundam me jom sudam ko belam wonno hakkundam me besgam ko jam wonno yew joni fof nati holko sabi gila de chadele gettimi manda do pami hakkilam fof udima allah mi joji Allah mi jodi itimi gale baba ko hano ari suri mi dande mi reni mi besmu mada da hufi min goyani hege sakadam ka ko anwi no mi mine mana min gurdu hade Allah serni e bebe love me ko easy ko so easy lejeu mi jeu tindi mi hander mi fami ko yidde wasa nawlirede sabi di musibaji fotano wonde sabu ken julbe islam ne dagni resda ha rewbe nayo de
ñu berde ma artir hakillema ne do wa 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 de heb de kal fesse mun ko mi ne ma ya makko windama gilen garani min mi wa salade dum ana wa salade dum kanko wa salade dum ol fof ko jare ni ligge yaaji mo don bondi di ko si gallam on chari besgam on bonni gollam joni hol ko jidda
Reportage à Nouakchott dans la commune défavorisée de Darnaïm, au nord de la capitale mauritanienne. Parmi cet océan de béton gris posé sur le désert, eh bien le centre Safia annonce la couleur dès l'entrée, avec ses murs turquoises, ses tentes, ses tapis, ses petits carrés de culture maraîchère, à l'ombre des acacias, dans les effluves de basilic. Ce centre d'activité pour jeunes filles annonce en fait la sécurité, l'écoute et l'espoir pour près de 1400 femmes chaque année depuis 2020. Ce projet à grande échelle, qui va concerner d'ailleurs plusieurs milliers de femmes, géré par l'UNICEF, largement appuyé par la France, en partenariat avec les autorités de la commune, le réseau national des associations, propose des formations concrètes. Ça veut dire qu'il y a des bus qui vont chercher les filles dans les quartiers pour les déposer dans leurs ateliers chaque jour. Alphabétisation, couture, informatique, communication, développement personnel, self-défense. Ici, tout est une première fois pour les femmes.
قمر العز في جبينك بدرون قمر العز في جبينك بدرون يأمر الكون نوره المتناري يأمر الكون نوره المتناري مجدك العلم والجهالة عيب كيف ما
Alors Hamasouvi, je vais vous demander de vous présenter déjà.
Moi c'est Hamasouvi, je suis le coordinateur du projet Centre Safia. Le projet Centre Safia c'est un projet d'autonomisation de la jeune fille en Mauritanie, mais la jeune fille la plus vulnérable, la jeune fille malheureusement la plus discriminée et les jeunes filles qui sont en déperdition aussi scolaire et qui vivent dans des vraiment difficultés les plus difficiles au niveau de la société. Pauvreté, malheureusement violence faite aux femmes et aussi un délaissage complet de la fille. Donc là vous êtes au sein l'enceinte du centre Safia. Alors là on est vraiment dans la partie la plus importante, la partie qui concerne les filles quand elles viennent d'arriver.
Parce que ces jeunes femmes à l'origine, elles viennent beaucoup de zones rurales, elles sont arrivées à Nouakchott dans des conditions économiques difficiles. Quel est leur parcours en fait par rapport à la ruralité, par rapport à la ville?
La plupart elles sont nées à Darnaïm. Darnaïm c'est un des quartiers les plus défavorisés et les plus pauvres de la région nord de Nouakchott. Et donc, c'est aussi la Moukata, qui est le département le plus peuplé en Mauritanie, plus ou moins, parce que les études démontrent que c'est là où il y a plus de délinquance, c'est là où il y a plus de déperdition scolaire, c'est là où il y a plus de poches de pauvreté. Et c'est là aussi où il y a plus de violence et aussi de la non-considération pour la jeune fille. Alors, ces filles-là, elles sont ici de ces domaines dont je viens de citer. Donc, elles viennent avec des problèmes, énormément des problèmes socio-économiques. Et aussi, comme vous savez aussi, la jeune fille a besoin de s'affirmer, de savoir qu'elle a un rôle à jouer. Elle doit avoir des objectifs dans la vie. Et elle doit se sentir, c'est son droit le plus absolu, c'est les droits humains. Ici, on cible les filles de 14 à 24 ans. Et il y en a, c'est vrai qu'on vous venez de le dire, il y en a qui sont malheureusement, qui ont été victimes d'un mariage précoce, celui d'un mariage des enfants, parce que la plupart, elles ont été mariées moins de l'âge normal. 18 ans.
C'est interdit par la loi, normalement.
C'est interdit par la loi mauritanienne, tout à fait, tout à fait. Mais malheureusement, c'est des pratiques de la communauté qui continuent, malheureusement, et qui aussi entravent les jeunes filles.
Pour les jeunes femmes qui ont déjà des enfants, comment font-elles pour se libérer, pour venir ici?
Avec beaucoup d'efforts, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont déjà des enfants, mais qui se disent, on doit se sacrifier pour nos enfants. Mais le sacrifice commence aussi par le projet Centre Safia, qui nous donne l'espoir qu'on peut demain avoir une spécialité ou un métier sur lequel nous pouvons nous occuper de nous-mêmes, mais s'occuper surtout de ces bébés que nous avons. Et la plupart, elles sont aussi divorcées. et qui vivent avec les parents. Et les parents, c'est des gens qui vivent dans vraiment la pauvreté extrême. Donc là, on vient d'arriver donc, dans la salle de la couture et confection et vente. Pourquoi couture? Parce qu'elles apprennent à coudre, mais aussi à réparer la machine. C'est au sein de cet atelier de couture qu'elles ont arrivé à confectionner déjà pas mal d'habits. Mais aussi, nous avons une grande commande aujourd'hui en Mauritanie, grâce à la formation de ces filles, de ce qu'on appelle les serviettes hygiéniques, qu'elles-mêmes, elles ont préparées, comme vous voyez là, dans leur... Voilà, donc on peut vous présenter l'une des serviettes hygiéniques. Et ce sont des serviettes hygiéniques qu'aujourd'hui, beaucoup d'ONG et d'organisations en Mauritanie demandent à ce que ces filles de Santa Safia, parce que quand même, elles sont de bonne qualité.
Il ne faut pas oublier hein, que les menstrues, c'est une des premières causes d'absentéisme à l'école, notamment hein, pour les filles.
Tout à fait. Et ça, c'est la réponse à cette problématique.
Quand on dit aux femmes, bah, vous allez apprendre à coudre des serviettes hygiéniques, est-ce que c'est un tabou quand même de parler des règles?
C'est un grand tabou. C'est pourquoi le tronc commun, c'est pour casser les tabous. Avant qu'elles arrivent là, on les prépare au sein de ces discussions que vous voyez sous les tentes. Donc, ces discussions sous les tentes, parce qu'on sait que c'est tabou, on sait que c'est vraiment aussi... On n'en parle pas beaucoup au sein de la famille, mais... Quand elles sont arrivées ici, ça trouve que déjà, elles étaient préparées. Mais ça reste toujours tabou quand elles veulent discuter avec les autres copines pour leur dire, nous, on fait de la confection, en fait, des serviettes hygiéniques.
Bonjour Malika.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites ce matin avec la machine à coudre?
Bon, je suis en train de monter déjà les fils. Et bientôt, on va nous donner ce qu'on doit coudre. Et voilà.
Jusqu'où vous êtes allée à l'école, Malika?
Pas loin.
C'est quoi, pas loin?
Bon, pas aussi...
L'école fondamentale?
Oui, c'était pas vraiment ça.
Combien d'années vous êtes restée à l'école fondamentale?
Bon, on peut dire que...
Deux ans, trois ans?
Peut-être deux, trois ans, comme ça.
Mais vous parlez français quand même?
Oui, bon, à cause de l'entourage et tout ça. Parce que je suis pas d'ici.
Vous êtes d'où, Malika?
Je suis du Mali.
D'accord. Là, vous êtes en train de préparer...
J'ai déjà monté le fil,
la canette,
ça, bobine et jusqu'à l'aiguille. D'accord. Et j'ai inséré coque et saille.
Est-ce que vous saviez coudre en arrivant au centre Safia déjà?
Jamais, jamais.
Jamais fait de couture?
Aucune idée.
D'accord. Est-ce que ça vous plaît?
Oui, ça me plaît bien.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la couture?
Ce qui me plaît dans la couture, c'est quand j'appuie la pédale et que ça tourne.
On peut le faire?
Oui, bien sûr. Et ça part rapidement. C'est ce qui me plaît.
Salam alaikum.
Bonjour. Salam alaikum.
Ça va? Donc là, c'est un atelier où les filles apprennent à savoir c'est quoi un micro-ordinateur. Et la plupart nous ont dit au départ que le voient qu'à la télé, mais ils n'ont jamais touché. Donc aujourd'hui, ils ont touché un ordinateur, ils savent déjà la composition d'un micro-ordinateur et elles arrivent même à savoir différencier entre une application et un logiciel. Ça, c'est très, très important parce que, comme vous savez aussi, les jeunes filles aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, malgré leur pauvreté, mais chacune, elles se battent pour avoir un smartphone.
Bonjour Doudou. Oui, donc vous êtes une des bénéficiaires, vous participez à l'atelier informatique.
Oui, ouais. Je suis une bénéficiaire du centre Safia.
Oui. Et qu'est-ce que vous faites ce matin? Le programme, c'est quoi?
Le programme, aujourd'hui, on va parler quelques mots qu'on doit utiliser pour travailler.
Par exemple?
Par exemple, comme email. Les mots qu'on doit utiliser dans l'informatique, par exemple. Comme genre un fichier, un lien, une identification, le nom d'utilisateur, le mot de passe, ce genre de trucs.
Est-ce que vous, par exemple, Doudou, vous avez une adresse email?
Si, j'ai une adresse email.
Vous avez un smartphone déjà, Doudou, hein?
Ouais.
À quoi ça peut vous servir finalement de connaître de l'informatique? C'est quoi votre projet dans la vie?
Alhamdoulilah, aussi maintenant, je suis capable de faire beaucoup de choses grâce à l'informatique. Par exemple, je peux maintenant faire des logos, faire aussi des panneaux, voilà, et beaucoup de choses.
Et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Vous avez déjà un métier? Vous voudriez vous lancer dans le commerce? C'est quoi votre projet?
Commerce, bon, c'est pas vraiment mon truc. Mais j'aime bien le calligraphe quand même.
Par exemple, vous aimeriez faire du graphisme, c'est ça? Faire des logos pour des entreprises?
Ouais, Inch'Allah, c'est ça.
Et vous faire payer pour ça, c'est ça?
Ouais. D'accord. Merci.
Merci, Doudou.
Alors là, on est dans un atelier donc de self-défense. Donc nous sommes avec Marie Diallo. Donc c'est une Mauritanienne judoka, mais elle est là donc pour vraiment aider les filles à savoir se défendre.
Bonjour Marie Diallo.
Bonjour.
Donc vous êtes championne de judo?
Oui, je suis championne de judo. Je suis championne Mauritanie. Mm-hmm. Je suis arbitre international. Je suis entraîneur. Je entraîne des enfants avec des grands. J'ouvre les centres aussi de judo pour l'éducation des enfants.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de vos élèves, là? Toutes ces femmes qui sont autour de vous, dans leurs belles tenues, dans leurs grands voiles?
Ici, j'ai préparé les filles. Avec moi, on va avancer pour le self-défense. Parce que ici, tu sais, les pays islamiques, les femmes, elles portent les voiles. Il faut montrer comment elles veulent défendre avec les voiles. C'est pour ça.
C'est facile de faire du judo avec un voile comme ça jusqu'aux pieds?
Non, ici, on fait le self-défense. Parce que le judo, normalement, on fait avec les kimonos. Parce que...
Donc là, c'est self-défense. Mais c'est inspiré du judo un petit peu?
Parfois, j'ai fait des techniques de judo. D'accord. Ici pour les filles.
Dans quelle situation elles auraient besoin de self-défense?
Quand il y a une viol, tu peux te défendre. Ou...
En cas de viol?
Oui. Mm-hmm.
Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration là?
Oui, c'est avec plaisir.
Hein? Mm-hmm. Alors là, vous l'avez complètement renversé par terre.
Une bloc.
C'est ça. Et vous tordez le bras. Hein? C'est
ouais,
ça?
Faut...
Ça fait pas mal? Non? Ça va?
Ça va.
La Mauritanie, c'est un pays qui est très très riche, non seulement en ressources naturelles, mais en ressources humaines, et avec une jeunesse très dynamique comme la nôtre. Nous avons contribué à vraiment mettre en place ce projet-là, les objectifs de ce projet, parce qu'on y croit, parce qu'on est des jeunes aussi, que nous avons subi le même chemin que ces filles-là. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique d'abord au haut niveau pour que ces genres vraiment d'initiatives puissent être vulgarisées dans toute la Mauritanie. Et toute la Mauritanie en a besoin.
Et retrouvez les photos, le diaporama, la story de notre reportage sur nos réseaux sociaux Instagram 7 milliards RFI et notre page Facebook. Le tout signé Romain Dubrac et Juliette Brault. À la technique, il y avait également Nicolas Benita, émission préparée par Juliette Brault, à réécouter quand vous voulez en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et demain, 7 milliards de voisins, l'équipe de 7 milliards rentre à Paris. C'est Amélie Beaucourt qui présentera l'émission. Elle vous permettra de vous exprimer sur l'ésotérisme, l'astrologie, la cartomancie, le fait de lire dans les cartes, la numérologie. Pourquoi autant de fascination pour déchiffrer l'avenir, pour mieux comprendre l'humanité? Appelez-nous, on attend vos témoignages, vos points de vue. Dans quelques instants, ce sera le journal à Paris. Moi, je vous redonne le WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins, c'est fini.